J'ai dit au commencement de cette histoire que je n'oublierai jamais cette époque du 5 septembre 1708 où cet événement nous arriva et où j'ai reçu 3 grandes blessures et échappé à la mort comme par une espèce de miracle. En voici le récit. On a vu que lorsque la frégate que nous attaquions eut esquivé l'abordage et qu'elle nous eut jeté ses grappins et attaché à son bord, nous étions exposés au feu de son artillerie chargée à mitraille. Il se rencontra donc que notre banc, dans lequel nous étions 5 forçats et un esclave turc, se trouva vis-à-vis d'un canon de la frégate que je voyais bien qui était chargé. Nos bords se touchaient, par conséquent ce canon était si près de nous qu'en m'élevant un peu je l'eusse pu toucher avec la main. Ce vilain voisin nous fit tous frémir. Mes camarades de banc se couchèrent tout plat, croyant échapper à son coup. En examinant ce canon, je m'aperçus qu'il était pointé, ce qu'on appelle à coulée bas, et que, comme la frégate était plus haute de bord que la galère, le coup porterait à plomb dans le banc et qu'étant couché, nous le recevrions tous sur nos corps. Ayant fait cette réflexion, je me déterminai à me tenir tout droit dans le banc. Je n'en pouvais sortir, j'y étais enchaîné, que faire ? Il fallut se résoudre à passer par le feu de ce canon, et comme j'étais attentif à ce qui se passait dans la frégate, je vis le canonnier avec sa mèche allumée à la main qui commençait à mettre le feu au canon sur le devant de la frégate, et de canon en canon, venait vers celui qui donnait sur notre banc. J'élevai alors mon cœur à Dieu et fis une courte prière, mais fervente, comme un homme qui attend le coup de la mort. Je ne pouvais distraire mes yeux de ce canonnier qui s'approchait toujours de notre canon à mesure qu'il tirait les autres. Il vint donc à ce canon fatal. J'eus la constance de lui voir mettre le feu, me tenant toujours droit en recommandant mon âme au Seigneur. Le canon tira. Et je fus étourdi tout à coup et couché, non dans le banc, mais sur le coursier de la galère. Car le coup de ce canon m'avait jeté aussi loin que ma chaîne pouvait s'étendre. Je restai sur ce coursier à travers le corps du lieutenant de la galère qui était tué, je ne sais combien de temps. Mais je conjecture qu'il doit avoir été considérable, étourdi et sans connaissance. À la fin, cependant, je repris mes sens. Je me levai de dessus le corps du lieutenant, rentrant dans mon banc. Il était nuit. Et je ne voyais pas ni le sang, ni le carnage qui était dans mon banc à cause de l'obscurité. Je crus d'abord que mes camarades de banc se tenaient couchés pour la crainte du canon. Moi, qui ne savais pas que je fusse blessé, ne sentant aucun mal, je dis à mes camarades « Levez-vous, mes enfants, le danger est passé !» Mais je n'eus d'eux aucune réponse. Le turc du banc, qui avait été janissaire et qui se vantait de n'avoir jamais eu peur, restant couché comme les autres, me fit prendre un ton ailleurs. « Quoi ?» lui dis-je, Issouf. « Voilà donc la première fois que tu as peur. Allons, lève-toi » Et en même temps, je voulus le prendre par le bras pour l'aider. Mais, ô horreur qui me fait frémir encore quand j'y pense, son bras détaché de son corps me reste à la main. Je rejette avec horreur ce bras sur le corps de ce pauvre misérable, et je m'aperçus bientôt que lui, comme les 4 autres, était haché comme chair à pâté, car toute la mitraille de ce canon leur était tombée dessus. Je m'assis dans le banc. Je ne fus pas longtemps dans cette attitude que je sentis couler sur mon corps qui était nu quelque chose de froid et d'humide. J'y portais la main et je sentais bien qu'elle était mouillée. Mais dans l'obscurité, je ne pouvais distinguer si c'était du sang. Je m'en doutais cependant, et suivant avec le doigt ce sang qui coulait à gros bouillons de mon épaule gauche, proche la clavicule, je trouvais une grande blessure qui me perçait l'épaule de part en part. J'en sentis aussi une autre à la jambe gauche au-dessous du genou qui perçait aussi d'outre en outre. Plus une troisième qui, je crois, avait été faite par un éclat de bois qui m'avait emporté la peau du ventre de la longueur d'un pied et de 4 pouces de largeur. Je perdais une infinité de sang sans pouvoir être aidé de personne, tout étant mort, tant à mon banc qu'à celui d'au-dessous et à celui d'au-dessus. Si bien que de 18 personnes que nous étions dans ces 3 bancs, il n'en échappa que moi avec mes 3 blessures, et cela de la mitraille de ce seul canon. On le comprendra aisément si on se représente que ces canons étaient chargés jusqu'à la gueule. Premièrement, la cartouche de poudre. Ensuite, une longue boîte de fer blanc, suivant le calibre du canon, remplie de grosses balles à mousquet, et le reste du vide avec toutes sortes de vieilles ferrailles. Et lorsqu'on tire ces canons, la boîte se brise, les balles et la mitraille s'épandent d'une manière incompréhensible et font un carnage affreux. Il fallait donc que j'attendisse pour être secouru que le combat fût fini pour s'arranger. Car tout était sur la galère dans un désordre effroyable. On ne savait qui était mort, blessé ou en vie. On n'entendait que des cris lugubres des blessés qui étaient en grand nombre. Le coursier, qui est le pont ou chemin qui règne au milieu de la galère, de là à l'autre bout, large de 4 pieds, était si jonché de corps morts qu'on n'y pouvait passer. Les bancs des rameurs étaient pareillement pour la plupart pleins, non seulement de forçats, mais de matelots, de soldats et d'officiers morts ou blessés, tellement que les vivants ne pouvaient se remuer, ni agir pour jeter les morts à la mer, ni secourir les blessés. Joignez à cela l'obscurité de la nuit, et que nous n'osions allumer ni falot ni lanterne, à cause qu'on craignait d'être vus de la côte et que les navires de guerre, qui étaient dans la Tamise, ne courussent sur nous. Enfin, tout était dans notre galère, dans un chaos et un embarras épouvantable, qui dura jusque bien avant dans la nuit que le combat étant fini, par la reddition de la frégate, on s'arrangea le mieux que l'on put. Les autres 5 galères nous aidèrent, remplaçant nos morts et blessés, rames et appareaux que nous avions perdus, car elles n'avaient pas à beaucoup près eu tant de mal et de pertes que nous. On fit beaucoup de diligence avec tout le silence possible pour nous remettre en ordre. Je dis silence et sans lumière, parce que nous voyions sortir de la Tamise quantité de falots allumés et tirer divers coups de canon de signal qui nous faisaient juger que c'était des navires de guerre qui venaient nous chercher. La première chose que l'on fit sur notre galère fut de jeter les morts à la mer et porter les blessés dans le fond de cale. Mais Dieu sait combien de malheureux furent jetés à la mer pour morts qui ne l'étaient pas. Car dans cette confusion et dans l'obscurité, on prenait pour mortels qui n'étaient qu'évanouis, ou de peur, ou par la perte que faisaient les blessés de leur sang. Je me trouvais dans cette extrémité, car lorsque les Argousins vinrent dans mon banc pour y déchaîner les morts et les blessés, j'étais tombé évanoui et sans mouvement ni connaissance parmi les autres, vautré dans leur sang et le mien, qui coulait en abondance de mes blessures. Ces Argousins conclurent d'abord que tous ceux du banc étaient morts. On ne faisait que déchaîner et jeter à la mort, sans examiner de plus près si on était mort ou en vie, et il suffisait pour eux de l'entendre crier ni parler. Ces funérailles se faisaient d'ailleurs si précipitamment que dans un moment ils avaient vidé un banc. Tous mes pauvres camarades ne furent pas sujets à cet équivoque. On les jeta par pièces et lambeaux dans la mer. Il n'y avait que moi qui étais entier, mais couché et confondu dans ce carnage, sans mouvement ni son de voix. On me déchaîna pour me jeter dans la mer, me jugeant mort. Or, il faut savoir que j'étais enchaîné à la jambe gauche et que j'étais blessé, comme je l'ai dit, à cette même jambe. L'Argousin prit ma jambe à pleine main pour me la tenir sur l'enclume, pendant qu'un autre faisait sortir la goupille de l'anneau de fer qui tenait la chaîne. Cet homme qui me tenait ainsi la jambe sur l'enclume appuya par hasard et pour mon bonheur le pouce bien fort sur la plaie que j'y avais, ce qui me causa une si grande douleur que je fis un grand cri, et j'entendis que l'Argousin disait « Cet homme n'est pas mort !» Et m'imaginant de quoi il s'agissait et qu'on me voulait jeter dans la mer, je m'écriai aussitôt, car cette douleur m'avait fait reprendre mes sens. « Non, non, dis-je, je ne suis pas mort !» Si bien qu'on m'emporta à fond de cale parmi les autres blessés et on me jeta sur un câble. Quel lit de repos pour un blessé plein de douleur. Nous étions tous les blessés dans ce fond de cale, pêle-mêle. Matelots, soldats, bas-officiers et forçats, sans distinction, couchés sur la dure et sans être secourus en rien. Car à cause du grand nombre de blessés que nous étions, les chirurgiens ne pouvaient y subvenir pour nous panser. Quant à moi, je fus 3 jours dans cet affreux fond de cale sans être pansé qu'avec un peu d'eau de vie camphrée, que l'on mit sur une compresse pour arrêter le sang sans aucun bandage ni médicaments. Les blessés mouraient comme des mouches dans ce fond de cale où il faisait une chaleur à étouffer et une puanteur horrible, ce qui causait une si grande corruption dans nos plaies que la gangrène s'y mit partout. Dans cet état déplorable, nous arrivâmes, 3 jours après le combat, à la rade de Dunkerque. On y débarqua d'abord les blessés pour les porter à l'hôpital de la marine. On me sortit de ce fond de cale de même que plusieurs autres avec le palon appauli comme des bêtes. On nous porta à l'hôpital plus mort que vif. On mit tous les forçats séparément des personnes libres dans 2 grandes chambres à 40 lits chacune, bien enchaînées au pied du lit. À 1 heure de l'après-midi, le chirurgien-major de l'hôpital vint pour visiter et panser nos blessures, accompagné de tous les chirurgiens des navires et des galères qui se trouvaient dans le port. Je venais d'être fortement recommandé au chirurgien-major, et voici comment.